Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. La présidentielle française à la merci d'une cyberattaque russe. À en croire le canard enchaîné, la menace serait suffisamment crédible pour inquiéter sérieusement la DGSE. Le niveau d'alerte est tel, écrit l'hebdomadaire, qu'un conseil de défense à l'Elysée est programmé sur le sujet. Si un tel piratage informatique devait avoir lieu, il porterait directement atteinte à la souveraineté de la France en confisquant une part de la décision politique au profit d'une puissance extérieure. Les démocraties vont devoir vivre désormais avec cette insécurité. Il est en revanche des parts de souveraineté que les États délèguent volontairement au nom de la mutualisation des politiques. La création d'une monnaie unique au sein de l'Union européenne en est un des meilleurs exemples. Mais qui dit délégation volontaire ne signifie pas pour autant adhésion irréversible. La remise en cause de la pertinence de l'euro, l'avènement du Brexit, la crise des accords de libre-échange témoignent, entre autres, d'une volonté de réappropriation par les États des leviers de la politique économique. La campagne présidentielle française n'échappe pas à ce phénomène. La plupart des candidats promettent de reprendre en main la destinée du pays, quitte à surjouer la fibre nostalgique de la puissance affaiblie mais prête à recouvrer sa pleine souveraineté. Alors en quoi la France est-elle toujours souveraine? C'est la question qui va se poser jusqu'à 19h avec trois des membres de notre club. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Je ne sais pas pourquoi je dis Manière, comme ça en insistant sur les voyelles.
Un peu d'emphase, ne m'essayez pas.
Vous dirigez le cabinet Footprint Consultants, ce qui vous vaut donc d'être consultant. Voilà. Pour discuter avec vous, Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir Hervé.
La suite dans les idées, tous les samedis à 13h30 sur France Culture, c'est vous qui produisez et présentez cette émission. Vous êtes par ailleurs prof à l'EHESS.
Professeur associé.
Professeur associé. Et puis Brice Couturier, le tour du monde des idées, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 11h53 sur France Culture, dans Culture Monde. Je précise que la question que nous posons ce soir s'inscrit dans le cadre d'une journée spéciale sur France Culture, que vous avez entendu depuis ce matin, du village au global, comment exister dans la mondialisation et la place de la France dans la mondialisation. Eh bien, ce sont les présidents de la République qui en parlent le mieux et en général au moment des vœux.
La France est une chose de très grand, de très particulier. C'est du reste, je le pense, ressenti par le monde entier.
Il y a un an, jour pour jour, je vous disais, nous ne sommes pas les plus forts, mais nous comptons et nous sommes respectés. Les visites amicales que nous ont faites tant de chefs d'État et de gouvernement étrangers témoignent de l'intérêt que suscite partout la coopération avec la France.
Pour moi, la France, c'est ce qu'il y a de meilleur dans le monde, à cause de son paysage et à cause de son peuple.
Le rayonnement de la France est grand dans le monde, dans cette Europe qu'il faut construire, dans cet immense tiers-monde qui a confiance en nous. Nous en avons besoin pour que notre parole soit entendue partout où la guerre et l'oppression se substituent aux droits de l'homme.
L'Europe est notre nouvel horizon. La présidence française l'aura fait progresser dans des domaines qui comptent. La sécurité, le travail, l'éducation, la culture, l'environnement. Elle s'est achevée sur un nouveau et bon traité.
Tout au long de l'année, mes chers compatriotes, la France portera la lourde responsabilité de la double présidence du G20 et du G8. Elle défendra vigoureusement ses intérêts, sans jamais renoncer à ses valeurs quant au multilatéralisme, au respect des droits de l'homme, au combat pour le développement et à l'impératif de la protection de notre planète.
La France, c'est un grand pays. Elle est la 5e puissance économique du monde. La France, elle prend ses responsabilités chaque fois que la paix est menacée, grâce à l'intervention de nos soldats en Afrique, en Irak. La France, elle fait avancer l'Europe. C'est elle qui a porté la priorité de la croissance avec le plan d'investissement de 315 milliards d'euros. Nous avons donc toutes les raisons d'avoir confiance en nous. Et c'est pourquoi je peux dire ce soir, vive la République et vive la France.
Voilà, vous aurez reconnu, je ne vais pas les citer, hein, les différents présidents de la République, de la 5e République qui, c'est cérémonie traditionnelle que celle des vœux du 31 décembre, où chacun y va de ce que représente aujourd'hui la France dans le monde. Philippe Magnat, est-ce que cette façon de présenter les choses, de présenter la puissance de la France, son rayonnement, c'est une façon aussi de défendre, d'une certaine manière, une certaine idée de la souveraineté de la France ?
Je crois qu'il y a deux sujets un peu distincts qui ont des zones de recouvrement, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y en a un, c'est le rang de la France, son rayonnement, ça a été beaucoup évoqué dans les extraits qu'on vient de passer. Il y en a l'autre, c'est sa souveraineté. Alors, ce n'est pas tout à fait le même sujet, je crois. On pourrait être souverain, mais tout petit. Le Luxembourg est au moins aussi souverain que nous, et tout petit. Pas de rayonnement luxembourgeois, je crois pouvoir le dire.
Sauf qu'on pourrait voir dans cette façon d'insister sur le rayonnement une manière de se rassurer
oui,
sur
alors moi, ce
qu'est
je
vraiment l'état
de la
souveraineté.
C'est que la raison pour laquelle la souveraineté redevient un sujet politique et, a fortiori, un sujet politique porteur, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'angoisse sur le rang de la France. C'est pour ça que je pense que les deux sujets sont malgré tout articulés. Et puis, il y a tout de même la question du ressort de la vie politique. La vie politique, elle a lieu dans un ensemble de personnes qui se reconnaissent comme ayant des valeurs communes, comme étant, comme s'admettant les unes les autres. À la même table en quelque sorte. Et je crois que la construction européenne d'une part et la mondialisation d'autre part, qui ont très peu d'inconvénients aux yeux de beaucoup de monde, ont de très grands inconvénients aux yeux d'une grande partie des Français, et que c'est ça qui est en train de ressortir aujourd'hui. Avant de venir à l'émission, j'ai retrouvé une citation de De Gaulle, on a évoqué un certain nombre de présidents, qui dit la chose suivante. « La démocratie se confond exactement pour moi avec la souveraineté nationale. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple, et la souveraineté nationale, c'est le peuple exerçant sa souveraineté sans entrave. » Et on voit bien qu'à partir du moment où il y a un doute qui s'est installé à tort ou à raison dans l'esprit des Français sur le fait que nous sommes souverains, il y a un doute qui, par contagion, vient insulter en quelque sorte la validité présumé de toute notre vie politique. On se demande si ça sert à quelque chose qu'on vote pour aller jusqu'au bout de la provocation, puisque de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Alors c'est une caricature, je crois que c'est une analyse qui est principalement mal fondée, mais je crois que ça correspond à un sentiment assez largement partagé aujourd'hui.
Sylvain Bourmont.
Je rejoins Philippe Magnat quand il dit que ce sont deux sujets différents, la question de la puissance de la France et la question de la souveraineté. Moi, je veux m'arrêter sur la question de la souveraineté qui me semble plus intéressante, au fond. Je crois que il n'y a pas que la France, la plupart des États-nations qui ont été construits au cours des deux derniers siècles connaissent aujourd'hui une crise de souveraineté qu'on peut lier à cette forme qu'est l'État-nation.
Qui n'est pas souvent présentée dans ces termes pour autant.
C'est une forme qui a été... qui a mis du temps à être construite. Hein. On parle de nation building en anglais, hein, de construction étatique qui recouvre une nation ou plusieurs. Dans le cas du Royaume-Uni, il y a plusieurs nations, mais il y a un État. Et en fait, pourquoi cette forme-là est menacée ? Elle est menacée, on le sait, par des phénomènes de mondialisation, comme on dit en français, de globalisation, comme on dit en anglais, qui sont principalement économiques, financiers, mais aussi culturels, humains. C'est lié beaucoup
anthropologique
à la capacité, à la révolution des moyens de transport, par exemple, à la capacité de se déplacer sur la planète beaucoup plus facilement, de communiquer quand on se déplace pas à distance aussi, beaucoup plus facilement. Donc en fait, cette forme qui était la forme réceptacle, au fond, de la démocratie dont on parlait à l'instant, elle est bousculée à la fois par en bas et par en haut. Elle est bousculée au niveau supranational et au niveau infranational. Et on voit donc au niveau infranational, ça a même été organisé. Parce que par exemple, dans un pays comme la France, très centralisé, on a bien pris conscience à un moment qu'il fallait qu'on change de méthode de gouvernement, qu'on ne pouvait plus tout décider à Paris, faire descendre vers le bas. Donc on a eu les lois de décentralisation au début des années 80, les lois de fer qui ont été prolongées par d'autres lois, et on a vu naître des collectivités territoriales autrement plus puissantes qu'elles ne l'étaient. D'ailleurs on dit il y en a trop de niveaux, il y a les communes, les communautés de communes, les départements, les régions, etc. Mais en tous les cas, il y a là...
Plus le retour des pays, le retour des langues régionales, etc. qui va dans le même sens.
Il y a aussi ça. Alors Ça, c'est en dessous, en quelque sorte. Hein. Et puis au-dessus, évidemment, il y a eu le processus de construction européenne, si on prend la France. Mais au-delà de ça, tout le multilatéralisme, tout le travail fait dans le cadre, on entendait Nicolas Sarkozy parler du G8, du G20, de beaucoup de cadres supranationaux. Donc ça, c'est un aspect des choses, qui est l'aspect, je dirais, institutionnel des choses. Mais il y a un autre aspect qui est venu remettre en question aussi les États-nations, c'est la montée en puissance des multinationales. On a vu des acteurs économiques qui sont aussi des acteurs sociaux et des acteurs politiques, ipso facto, avoir un pouvoir parfois supérieur à celui des États, avoir des budgets ou avoir des chiffres d'affaires qui dépassent de loin le PIB de certains petits États. Donc, au fond, les États se sont vus concurrencés par ce type d'acteurs. Et d'ailleurs, c'est la concurrence par ce type d'acteurs de type multinational, qui peut d'ailleurs pousser à des coopérations multinationales, à des constructions supranationales. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on ne pourra pas lutter la France, la République française, face à certaines multinationales, et qu'il vaut mieux le faire au niveau de l'Union européenne, par exemple, pour être plus efficace. Donc on voit que ces phénomènes sont complexes, ils sont enchevêtrés, et le résultat, c'est effectivement que ce qui autrefois était la brique de base, je dirais, de la politique, ben, ses contours sont un peu brouillés, un peu effacé en quelque sorte, on ne sait plus très bien ce qu'on doit faire dans ce cadre-là, qui est celui de l'État-nation.
Brice Couturier, est-ce que vous faites vous aussi le constat d'une crise de la souveraineté, même si c'est, il me semble quand même un terme que l'on n'utilise pas énormément ces derniers temps. On parle de la montée des nationalismes, on parle de montée du protectionnisme. Est-ce que finalement on n'aurait pas intérêt à re-questionner ce thème de la souveraineté pour essayer aussi de comprendre ce qui est à l'œuvre en ce moment?
Bah oui, il y a tout un plan de la classe politique française, du côté du Front National en particulier, mais pas complètement uniquement, qui pense qu'effectivement on peut revenir à des formes de souveraineté nationale qui étaient celles, mettons, des années 50. Ben, il faut bien voir aussi que la souveraineté nationale est une idée relativement récente dans l'histoire de l'humanité et de l'Europe en particulier. Ça remonte tout simplement au traité de Westphalie, au pluriel, de 1648, qui établissent effectivement l'idée que les États sont maîtres chez eux, qui disposent d'une souveraineté à peu près illimitée sur leur territoire et qui se reconnaissent entre eux. Quelle que soit la taille de ces différents États. Mais cette idée est relativement récente, elle est très européenne. C'est aussi pour ça que les Européens sont tellement attachés à l'État-nation, parce que finalement, ils n'ont jamais exercé leur démocratie autrement que dans ce cadre-là. Mais ce cadre, il est en crise depuis déjà bien longtemps. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit par mes deux précédents amis, mais il est clair effectivement que la souveraineté nationale était minée depuis belle lurette par la mondialisation, qui n'est pas un phénomène récent, par la montée des identités régionales aussi, par les multinationales, on l'a dit. Le problème qu'on affronte alors aujourd'hui, là, pour le coup, c'est que nous avons délégué, nous, les petites puissances européennes en déclin, une partie accroissante chaque année de notre souveraineté à cet ensemble qui s'appelle l'Union européenne. Nous avons pensé, surtout nous, Français, qui avons du mal à penser autrement qu'en termes d'État-nation et de souveraineté, précisément, alors que les autres pays européens ont des cultures politiques un peu différentes de la nôtre, nous avons pensé construire un super État-nation à l'échelle européenne auquel nous déléguerions effectivement des parties croissantes de nos souverainetés pour qu'ils les exercent à notre place. La déception, si vous voulez, la déception des peuples vient du fait qu'ils constatent que ces responsabilités, ces prises par l'Union européenne, en fait, ne sont pas assumées comme on l'aurait voulu. Elles ne sont pas exercées au niveau supérieur comme on aurait souhaité que ce soit le cas, nous, Français. C'est particulièrement clair dans les domaines de la diplomatie ou de la défense, par exemple, où nous voyons bien qu'il n'y a aucun embryon d'une défense européenne articulée, alors même que les menaces qui pèsent sur nous sont les mêmes.
On le voit aussi dans la politique monétaire.
On le voit à tous les niveaux, si vous voulez. Enfin, la politique monétaire, je ne suis pas d'accord. Il me semble que, précisément, ça marche plutôt bien, contrairement à ce que
vous avez oublié qu'il y a eu une crise de l'euro qui a quand même été assez forte.
Elle a été surmontée de manière assez efficace par la Banque Centrale Européenne. Je me demande, alors, tous les gens qui disent qu'il faudrait abandonner l'euro et retourner au franc, qui s'interrogent un petit peu sur ce qui serait passé entre 2008 et aujourd'hui si on avait eu les monnaies nationales, si on avait eu un franc belge, une lire italienne et un franc français face à ce qui s'est passé du côté du dollar. Imaginez un petit peu les dégâts considérables, la guerre des monnaies qui aurait eu lieu entre Européens, et combien combien vaudrait aujourd'hui la lire italienne ou le franc belge si nous avions conservé nos monnaies nationales? Non, l'euro nous a protégés, il n'y a aucun doute là-dessus. Et la gestion de la monnaie a été plutôt efficace. Mais oui, il y a cette nostalgie de l'époque où, effectivement, les États étaient souverains et maîtres chez eux. Mais cette époque était terminée bien avant. La mondialisation ne date pas d'hier. Le processus de minage des souverainetés nationales est bien plus ancien que ce qu'on appelle la mondialisation elle-même.
Philippe Manière, y a-t-il des domaines que la France, selon vous, a eu dans lesquels la France a eu raison d'abandonner ou en tout cas de déléguer sa souveraineté? Il faut peut-être d'ailleurs davantage parler de délégation, parce que ça veut dire aussi qu'on peut reprendre une partie de sa souveraineté. Vous dodelinez de la tête là, ouais. Quand je dis qu'on peut la reprendre. Non, déléguer, ça ne veut pas forcément dire l'abandonner ad vitam aeternam. Si, pour
non,
vous,
je comprends ce que vous dites. Et le problème, c'est que en maths, plus 1 et moins 1, ça fait 0, mais en politique, ça ne marche pas comme ça. Et typiquement, moi, je n'étais pas de ceux qui étaient certains que l'euro était une bonne idée. J'ai beaucoup hésité à l'époque. Je pense, comme Brice vient de le dire, que l'euro nous a apporté beaucoup en termes de protection. On ne se rappelle pas à quel point notre industrie était dévastée quand la lire italienne dévaluait. On ne se rappelait pas l'humiliation et la perte de pouvoir d'achat qui s'attachait à nos propres dévaluations. Enfin, on ne sort pas du paradis quand on rentre dans l'euro, hein, clairement. Mais en même temps, le problème fondamental d'une zone monétaire, c'est qu'il faut qu'elle soit optimale, pardon, pour cette cuistrerie d'économistes. Et pour faire simple, une monnaie unique qui s'applique à des pays qui ont des besoins différents, dans certains cas, ça peut être assez douloureux. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des Allemands qui sont furieux que les taux d'intérêt soient si bas parce qu'ils sont plus âgés que nous en moyenne et qu'ils sont rentiers et qu'ils voudraient que leur épargne leur rapporte, et ça n'est pas indécent, c'est une requête légitime. Et puis vous avez des gens qui disent on est toujours en crise, pour caricaturer les Grecs, et donc les taux d'intérêt, aussi bas fussent-ils, ne le sont pas assez. Et donc la difficulté d'avoir une monnaie, une gestion de la monnaie qui corresponde à l'ensemble, à l'intérêt de chacun et pas seulement à l'intérêt général pondéré, c'est une difficulté à peu près insurmontable. Donc on peut se dire qu'on a eu tort de rentrer dans l'euro, je ne suis pas sûr d'avoir une opinion définitive sur le sujet, mais pour autant, même si on pense qu'on a eu tort de rentrer dans l'euro, ça ne veut pas dire qu'il faut en sortir. Parce qu'il y aurait un autre prix à payer pour en sortir. Et il serait, à mon avis, très considérable. Donc vous voyez, c'est ça qui est difficile dans cette matière. Moi, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur la question de souveraineté. S'agissant de la défense, Brice a raison de dire que dans le fond, on a une frustration de voir que l'Europe n'est pas foutue. C'est d'ailleurs les origines de l'échec de l'Europe qui finit par être un succès, c'est la communauté européenne de défense. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté. Mais ça n'est pas par hasard, c'est précisément parce qu'on bute sur la souveraineté. On voudrait déléguer à l'Europe des instruments qui nous permettent de recouvrer une souveraineté par délégation, mais on y échoue parce que la souveraineté nationale y fait obstacle.
Et pourtant,
on n'a pas les mêmes déterminismes que les Allemands ou que les Anglais en matière de défense.
C'est fou de dire le contraire. Depuis le Brexit, c'est justement sur les questions de défense que les Européens semblent le plus enclins à avancer justement en termes de délégation de souveraineté.
Mais on peut avancer en mettant en commun, en faisant des achats en commun, en mettant en commun un certain nombre de choses. Mais rappelez-vous à quel point il était difficile, ne serait-ce que sur un conflit qui, rétrospectivement, même s'il y a eu énormément de victimes. Le conflit yougoslave, qui n'est pas un conflit qui, d'un point de vue géopolitique, est majeur, ex poste. Au moment du conflit yougoslave, les Allemands et les Français ne voient pas du tout les choses de la même manière. Les Allemands applaudissent à l'autonomisation de la Croatie, et les Français, qui sont fidèles à la vieille alliance avec les Serbes, trouvent que c'est un crime. Et donc, qu'est-ce que vous faites si vous devez envoyer ou pas une armée le jour où vous êtes unis et que vous devez décider, vous ne savez pas faire? Et donc, il y a quelque chose d'irénique et de fou et de dangereux à vouloir se mettre d'accord des gens qui n'ont pas les mêmes déterminismes. C'est là où on bute sur la limite de la délégation de souveraineté. En théorie, c'est charmant, mais pratiquement, on bute sur précisément ce que nous traitons aujourd'hui, c'est-à-dire des souverainetés qui sont distinctes parce qu'elles reposent et en même temps qu'elles déterminent des envies, des histoires différentes.
Sylvain Bourmeau, y a-t-il des éléments de souveraineté qu'il faut absolument veiller à ne pas déléguer parce que ce seraient des phénomènes irréversibles? Et pour compléter ma question, est-ce que vous considérez que la France a trop délégué de sa souveraineté?
Je crois que la question de la souveraineté, elle doit toujours être posée en regard de la question de la légitimité. Parce que comme le rappelait très justement le général de Gaulle dans l'intervention qu'on a entendue, la souveraineté, c'est une souveraineté, cette souveraineté nationale, c'est une équivalence de la démocratie. Le problème de la délégation, le problème éventuel de la délégation de souveraineté au niveau de l'Union européenne, il est lié au fait que l'Union européenne n'est pas suffisamment légitime au sens où il n'existe pas d'espace public européen qui puisse faire fonctionner une démocratie à l'échelle de l'Europe. Et donc, déléguer du pouvoir politique à une instance qui ne bénéficie pas de cette légitimité, qui n'est pas assise sur un espace public démocratique, ça pose un problème.
Bah, s'agissant de la monnaie unique, il y a quand même eu le référendum, Maastricht, alors qu'il est passé ric-rac.
Bon, non, mais c'est pas décidé une fois pour toutes de confier le pouvoir à une instance, c'est être en mesure de conserver le contrôle sur le pouvoir qui exerce cette instance.
Donc, si cette délégation de souveraineté, on n'en est pas, on n'est pas content, on peut la récupérer.
Ce pouvoir de contrôle. Mais il ne s'agit pas de la récupérer, il s'agit d'exercer un contrôle en permanence sur la politique monétaire, par exemple, sur toutes les autres politiques qui peuvent être menées de ce point de vue-là. Comme c'était le cas dans un État-nation qui avait sa monnaie, c'est le Parlement qui était chargé de contrôler les décisions politiques. Alors, moi, je pense que cette impression de perte de souveraineté en France. Elle vient aussi du fait que les responsables politiques qui sont élus et qui sont les représentants du peuple, eux-mêmes se trouvent de plus en plus souvent dans des situations dans lesquelles la souveraineté leur échappe. C'est-à-dire que le pouvoir de décision politique leur échappe. Alors, ils ont beau jeu parfois, quand ils sont pas toujours très honnêtes, de dire c'est la faute à Bruxelles ou etc.
Oui, parce qu'on surjoue aussi quand même. Hein,
ils le surjouent beaucoup, et je pense que ce fait de l'avoir surjoué a fragilisé considérablement l'Europe, hélas. Mais il y a une part de vérité qu'il nous confie que rarement. Je pense qu'il serait très intéressant, par exemple, de poser la question à un certain nombre de ceux qui se sont retrouvés ministres au lendemain de la victoire de François Hollande, pour leur demander la façon dont l'impression qu'ils ont eue dans la relation de travail qui s'est mise en place avec leurs administrations. La difficulté que ces élus, anciens députés pour la plupart, devenus ministres, ont eu à mettre en œuvre des politiques pour lesquelles ils avaient été élus, se heurtant de plein fouet à des blocages de la technostructure, en particulier Bercy, parce que le pouvoir, l'État dans l'État, il est là, et si souveraineté il y a, elle est là, et il y a un certain nombre d'élus qui n'ont pas été en mesure de mettre en œuvre ces politiques à cause de cette confiscation, au fond, de la souveraineté par un pouvoir. Et de ce point de vue-là, l'écart qui existe désormais entre le champ politique, qui doit être un champ démocratique, et le champ du pouvoir, qui n'est pas tout à fait le même, pose des problèmes énormes de souveraineté. Et je pense que l'une des manières de résoudre cette question serait qu'on adopte en France un système des dépouilles à l'américaine qui permettrait aux élus représentants du peuple de mettre en œuvre véritablement les politiques pour lesquelles ils ont été élus.
Alors, je vois que Philippe Manière n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais je voudrais d'abord entendre la réaction de Brice Couturier. C'est vrai que la souveraineté, elle se pose donc par rapport aux pertes de souveraineté qui pourraient être celles de la France, mais effectivement, aux pertes de souveraineté qui pourraient être celles du politique, même si le politique peut, dans certains cas, comme le disait Sylvia Bourmeau, avoir beau jeu à se plaindre de ne pas avoir les leviers sur certaines décisions et en faisant le reproche à l'Europe de nous imposer des décisions parce que l'intégration européenne serait allée trop loin.
Il faut parler aussi des élections américaines, parce que c'est ça qui marque un tournant dans notre histoire et probablement la fin d'un cycle historique. La nouveauté là du moment, c'est que les peuples éprouvent un sentiment de frustration. Ils ont le sentiment, peut-être pas infondé, qu'ils n'exercent plus véritablement leur souveraineté à travers les États, à travers les gouvernements qu'ils élisent, puisque ces gouvernements ont les pieds et les mains liés par toutes sortes de choses. Alors nous, en Europe, évidemment, on peut se retourner contre l'Union européenne, la Commission et tout ça en disant que c'est parce qu'on a abandonné des pans entiers de souveraineté qui sont exercés par Bruxelles sur lesquels, finalement, les peuples exercent un contrôle assez vague, mais pour les autres aussi, les Américains éprouvent la même chose puisqu'ils ont élu Trump dans le même esprit.
Est-ce que Trump est justement en train de prouver le contraire, c'est-à-dire que quand on a une forme de très fort volontarisme politique, cette question de la souveraineté, de la récupération de la souveraineté, eh bien, c'est possible.
Eh bien, nous allons voir. Moi, mon idée, mon pari, c'est que les murs de Trump se désagrégeront ou seront contournés exactement comme nos lignes Maginot en 1940. La mondialisation est un phénomène qui, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une idéologie et ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Ça fait déjà 5 ou 6 ans que je lis des livres et que je lis des articles disant que la mondialisation est terminée. Elle n'est nullement terminée. Regardez les chiffres. Certes, le commerce international progresse légèrement moins rapidement rapidement que la croissance mondiale, mais cette croissance mondiale est très forte. Et elle prend surtout des formes nouvelles, la mondialisation. Elle prend des formes numériques. Elle prend la forme de, par exemple, comme l'expliquent deux économistes que je citais ce matin dans ma chronique, le fait que sur Facebook et sur Alibaba chinois, des micro-entreprises sont en train de devenir des multinationales parce qu'elles trouvent des clients et des fournisseurs dans le monde entier grâce à ces plateformes numériques. Donc la mondialisation ne va pas s'arrêter, contrairement à ce que croit Donald Trump. Il a été élu pour ça. Parce que la mondialisation, c'est effectivement ce qui mine, enfin c'est un des facteurs parmi beaucoup d'autres, qui mine la souveraineté des États. Mais cette mondialisation ne va pas s'arrêter. Croire qu'on pourrait retourner brutalement à une époque très ancienne où les monnaies, où les États exerçaient leur souveraineté, non seulement sur leur budget, ce qui n'est plus le cas pour nous, sur leur monnaie, mais même sur les taux de change, mais même où il était interdit d'aller passer ses vacances à l'étranger en emportant une certaine somme d'argent, cette époque est absolument révolue. La révolution numérique à laquelle nous avons assisté depuis quelques années fait qu'il est devenu impossible d'exercer ce type de contrôle. Or, qui dit souveraineté dit contrôle sur un territoire limité, et la mondialisation fait que ces territoires ne sont plus limités, que les frontières qu'on peut édifier pour essayer d'y faire face sont systématiquement enfoncées. Elles le seront de plus en plus, il n'y a aucun doute là-dessus.
Vous dites qui dit souveraineté dit contrôle sur un territoire limité, mais ce qui n'empêche pas de défendre cette souveraineté dans un cadre multilatéral. Je voudrais juste, avant de redonner la parole à Philippe Magnin, vous citez une phrase d'Henri Guénaud. C'était en 2012, en janvier 2012, il y avait un débat qui avait été organisé par l'Express avec Arnaud Montebourg sur justement la France est-elle toujours souveraine. Et ce que dit Henri Guénaud me semble assez intéressant, qui se revendique lui comme souverainiste. Il dit notamment, comme l'a montré l'histoire, on ne défend jamais sa souveraineté tout seul. On ne gagne pas la guerre de 14-18 seul, ni la Seconde Guerre mondiale. Et la France est plus souveraine, et non pas moins, en étant membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Philippe Magnin, il y a aussi une façon de défendre sa souveraineté sans forcément s'isoler et sans forcément lier justement ce mouvement irrépressible, comme le dit Brice Couturier, qui est celui de la mondialisation.
Bien sûr, mais Brice y faisait allusion tout à l'heure. La souveraineté, c'est une reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire, je reconnais que tu es souverain et en échange, tu admets que je le suis pleinement à l'intérieur de mes frontières. Et donc, effectivement, la souveraineté, paradoxalement, elle suppose que vous ayez quelqu'un d'autre qui soit également souverain et qui vous reconnaissent comme tel. C'est précisément ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que toutes ces constructions internationales qu'on a faites et qui pour certaines étaient parfaitement souhaitables, je ne les mets pas en cause, mais elles peuvent donner le sentiment qu'il n'y a plus de souveraineté puisqu'on partage des éléments qui sont des attributs de souveraineté. Donc c'est ça, je pense, qui trouble les gens à juste titre. Je ne crois pas que leur trouble serait si grave si on n'était pas, pour être très honnête et pardon d'être trivial, dans la panade sur le plan économique. On commence à se poser des questions sur ce genre de problème quand on voit que ça va mal. Imaginez qu'on ait 4 ou 5% de croissance par an et qu'on ait 3% de chômeurs, je peux vous dire que les gens iraient en vacances, regarderaient la télé, feraient leur jogging et partageraient des rillettes en toute tranquillité. Je schématise, mais vous voyez, ce qui fait que aujourd'hui c'est un problème qui dans le fond est assez conceptuel mais qui prend une vraie acuité, c'est que les gens se disent, mais finalement tout ça, ça va plus. On a un problème parce qu'on n'est pas souverain. Et donc, c'est difficile de dire aux gens qu'il n'y a pas de lien forcément de cause à effet, simplement parce qu'il y a une concomitance. Il est vrai que la France, comme beaucoup d'autres pays, a abdiqué des éléments de souveraineté sciemment. Peut-être trop, peut-être pas assez, ça se discute. Il est vrai que par ailleurs, elle est dans la panade. Ça n'a pas vraiment de rapport. Alors, quand même, un petit mot. Non, mais comment dire. Il y a des tas de pays qui sont à peu près dans le même degré d'évolution qu'on vient de décrire, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'érosion de la souveraineté largement consentie, qui vont beaucoup moins mal que nous. Je vous les assure. Enfin, on oublie toujours, on n'est pas tout à fait seul au monde. Il y a des gens qui vont bien. Il y a des gens qui vont bien et qui ont fait les mêmes renonciations, qui ont procédé aux mêmes renonciations ou renoncements, selon que vous les jugez d'une manière ou d'une autre, que nous. Donc, il n'y a pas de lien si direct que ça. Alors, juste un tout petit mot, puis après, je lui cède la parole pour répliquer à Sylvain sur Bercy, Sylvain Bourmont. Cette question de souveraineté à l'intérieur des frontières à raison de la résistance des administrations, on la trouve partout. Effectivement, Trump s'y heurte aujourd'hui, pas seulement, Dieu soit loué, à l'administration, mais aussi aux contre-pouvoirs qui sont très heureusement prévus par les pères fondateurs. C'est-à-dire qu'il y a souvent, dans le discours français, on confond souveraineté et césarisme, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est souverain que celui qui dirige l'État souverain a tous les pouvoirs sans limite et doit les avoir sans sans limite. Mais il y a un peu cette vision française là, parfois. Donc on dit, on est plus souverain, le Parlement nous enquiquine, l'Europe nous enquiquine, etc. Non, heureusement, il y a des contre-pouvoirs, heureusement, il y a des engagements qui ont été pris et auxquels il faut se tenir. Et quant à Bercy, oui, Bercy est une citadelle, oui, Bercy casse les pieds au pouvoir, et c'est certainement parfois regrettable, mais n'oublions jamais que la raison principale pour laquelle Bercy empêche les politiques de faire ce qu'ils veulent, c'est que souvent les politiques ne veulent qu'une chose, c'est dépenser plus, et que le pays est ruiné. Alors parlons de souveraineté sous cet angle-là. Une des raisons pour lesquelles on ne peut plus parler très fort à la face du monde, c'est parce que quand on se met debout sur nos ergots et qu'on fait cocorico, on est un peu ridicule parce que tout le monde sait bien qu'on a les pieds là où vous savez, sur le tas de fumier. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas foutu d'équilibrer nos comptes, eh bien notre souveraineté est risible. À l'extérieur, les gens nous regardent poliment, mais ils savent bien ce que ça vaut. Et à l'intérieur, oui, effectivement, vous avez des types qui sont là pour limiter les dégâts, c'est leur mandat. Eh bien, ils cassent les pieds aux politiques.
Et on pourrait aussi
la phase numéro un du retour à la souveraineté, c'est d'arrêter de dépenser plus qu'on encaisse.
On pourrait aussi ajouter la question de la dette. Sylvain
Bourbon, c'est la même.
Précisément, Philippe, vous avez dit, ils sont là pour ça, c'est leur mandat. Précisément, ils n'ont pas de mandat. Ils ont une mission de service public, mais ils n'ont pas de mandat. Alors, j'entends ce que vous dites à propos du césarisme. Ce n'est pas du tout mon point de vue.
Je
pense que le Parlement, au contraire, doit jouer le rôle central en la matière. Et certainement pas le pouvoir exécutif. Ça, c'est un autre problème que nous avons. Et si souveraineté, on doit retrouver, c'est celle du Parlement. C'est la souveraineté nationale telle qu'elle est incarnée dans l'ensemble des élus de la nation.
Il y a un exécutif, tout de même.
Bien sûr, mais enfin, il faut rééquilibrer un petit peu les choses et je pense qu'on a on aurait intérêt à revenir vers un régime dans lequel le Parlement joue un meilleur rôle. J'entends ce que vous dites à propos de Trump, mais je pense qu'on mélange deux choses. On mélange la question de l'état de droit avec la question d'autres types d'appréciation. Or, le problème, c'est que le droit lui-même a évolué. Moi, je suis le premier à me réjouir qu'il y ait aux États-Unis un contre-pouvoir judiciaire qui empêche M. Trump de prendre un certain nombre de mesures au nom de la Constitution américaine, au nom d'un certain nombre de lois qui ont une valeur très très forte, hein, et que le président ne peut pas, comme ça, par un simple décret, remettre en question. Ça, c'est normal que la souveraineté politique, dans une démocratie, elle soit encadrée par l'état de droit. C'est la tension entre démocratie et état de droit. C'est absolument normal. Mais ce qu'on a vu se mettre en place depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est pas seulement Bercy, qui est une vieille administration, c'est ce qu'on appelle le droit public économique. Et le droit public économique est une chose qui permet, dans des formes juridiques, d'installer des vérifications, des contrôles qui sont d'opportunité. Par exemple, on voit des institutions juridiques très élevées, comme le Conseil d'État, a fortiori la Cour des comptes, se mêler de savoir si il est opportun de décider de la construction d'une ligne de TGV, par exemple. Parce qu'elle va le faire en proposant un bilan coût-avantage. Et là, on voit bien qu'on n'est pas dans le juridique, on est dans le politique. On peut estimer qu'un gouvernement a le droit de dépenser beaucoup d'argent pour des questions d'aménagement du territoire, pour des politiques de grands travaux, dans le cadre d'une relance keynésienne, ou pour des raisons qui, indépendamment de la relance économique, simplement ont trait à l'organisation du territoire. Eh bien, la souveraineté politique, le pouvoir politique est aujourd'hui bloqué du fait de la montée en puissance de ce droit public économique qui joue un rôle.
La faute à qui, Sylvain Bourbon ? La faute aux politiques ou la faute aux juges du Conseil d'État qui se seraient appropriés des pouvoirs qui n'étaient pas
les leurs ? Les juges ont fait gonfler cette partie du droit, qui est le droit public économique. Le pouvoir politique s'est trouvé affaibli aujourd'hui face à cette manière qu'a le juge de s'arroger au fond, ce qui, à mon sens, relève de la décision purement politique. Et donc, de ce point de vue, moi, comme citoyen, effectivement, je constate que le pouvoir politique, et donc mon pouvoir de citoyen, a été un petit peu rogné, et qu'on pourrait légitimement revendiquer le fait de reconquérir ce pouvoir. Non pas, attention, je ne parle pas là des libertés publiques, de ce qui relève de l'état de droit, pour lequel le juge est parfaitement dans son rôle. Je parle de ce qui s'est traduit en termes juridiques, mais qui pour moi relève du plan idéologique et en particulier de la mise en forme juridique d'un certain type de politique publique économique qui ne sont pas les seules possibles et les seules qu'on puisse avoir envie de mener quand on est élu au Parlement français ou à la présidence de la République.
Juste un mot, Philippe Magnard, après je reviens vers Brice Couturier.
Oui, non, je voudrais rassurer Sylvain Bourmeau, la Cour des comptes n'a malheureusement, à mon goût, pas les moyens d'empêcher l'État de dépenser. Et donc, encore une fois,
le Conseil d'État, France, oui, il peut bloquer
il ne bloque rien. Concrètement, il s'autorise de temps en temps à commenter, la Cour des comptes a fortiori, mais il ne bloque jamais rien. Je vous rappelle que la France est le pays de l'OCDE qui a le plus fort taux de dépenses publiques rapporté à son PIB. Donc, on pourrait certainement faire plus et mieux, si vous trouvez ça mieux. Enfin, on a peine à croire que ce soit bridé de manière très efficace pour, si on a ce résultat. La deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'il y a une forme de légitimité quand même, en particulier dans ce que fait la Cour des comptes. Je comprends ce que vous dites, et c'est vrai, c'est pas à la Cour des comptes de décider de l'opportunité politique. Cela dit, comme vous savez, l'humanité étant ce qu'elle est, quand un homme public veut défendre un projet, il parle de ses avantages et jamais de ses coûts. Et donc, il y a un rôle, c'est bien que quelqu'un dise, vous savez, ce TGV là, dont on vous a dit qu'il était formidable, il y aura personne dedans et ça va vous ruiner pour 5 générations.
Le Parlement,
oui,
c'est son rôle.
Le problème, c'est que le cumul des mandats
britanniques, c'est au Parlement britannique.
Je suis d'accord, mais sauf qu'au Parlement britannique, il y a cette tradition, et au Parlement britannique, il n'y a pas de cumul des mandats. Et là, en France, on est dans quelque chose qui est extrêmement complexe, qui tient au cumul des mandats. C'est à mon avis ce que disait Guy Carcassonne, c'est la mère de toutes les batailles. Donc le Parlement est surdépensier, il ne fait pas ce qui est l'un de ses deux rôles. Il doit censurer l'exécutif d'une part, et d'autre part, contrôler la dépense publique. Il ne contrôle pas la dépense publique, il ne le fait pas. Et que donc la Cour des comptes vienne de temps en temps nous expliquer qu'un truc ou un machin dont on nous a dit qu'il avait plein de qualités avait également un coût, moi je trouve que ça n'est pas inutile.
Le pouvoir politique, Brice Couturier, aujourd'hui, alors revenons à la France, a les moyens, a le pouvoir de se réapproprier des éléments de la souveraineté, ou bien est-ce que c'est des pertes qui, pour vous, sont définitives, parce que voilà, on a laissé filer justement
Je voudrais revenir sur ce que je disais sur la frustration des peuples à l'égard de ce qu'ils estiment être effectivement une souveraineté minée, parce qu'effectivement leur seul pouvoir, c'était celui de d'élire de temps en temps un gouvernement et un parlement qui leur donnait satisfaction et qui réalisent les politiques qu'ils ont envie de voir réaliser. Or, ils observent depuis quelques années déjà que finalement, ils n'ont pas ce pouvoir, que nos États, en particulier en Europe, n'ont pas ce pouvoir. Pourquoi ? Il y a une des causes, à mon avis, de frustration qui est assez évidente, c'est les juridictions internationales. C'est le fait que de plus en plus d'agences, d'institutions multilatérales ont pris une place prépondérante dans l'organisation de normes internationales qui sont nécessaires, par exemple face au réchauffement climatique ou face à l'organisation du commerce mondial. Ils sont nécessaires, mais en même temps, ils sont très embêtants parce qu'ils limitent, ils censurent terriblement la capacité des États à décider, et ces juges non élus imposent leurs normes. Et évidemment, dans le cadre européen, c'est encore plus vrai, puisque l'Europe ne fonctionne en réalité qu'à coup de normes. Comme nous avons été incapables de créer véritablement ce super État européen que les Français voyaient comme la concrétisation de leurs rêves et de leur transfert de souveraineté vers le haut, comme ils n'ont pas été capables de faire autre chose, comme le dit très bien Zeki Laïdi dans plusieurs livres, l'Europe n'est simplement qu'une fabrication de normes. C'est pour ça qu'elle marche d'ailleurs très très bien en période calme et qu'elle marche beaucoup moins bien quand il s'agit de prendre des décisions. L'État, l'exécutif, sait prendre des décisions. L'Union européenne ne le sait moins.
Il peut prendre la décision, par exemple, de ne pas appliquer les normes en matière de réchauffement climatique s'il le décide. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est encore possible, non, Brice Couturier ?
Regardez, je prends un exemple tout simple.
C'est la politique
de l'immigration. Un des grands problèmes que connaît aujourd'hui l'Europe occidentale, ce sont des flux migratoires non maîtrisés. Or, nous avons délégué à l'Union européenne la gestion des flux migratoires. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Et du coup, les peuples sont furieux, évidemment, contre l'Union européenne. Et sont furieux contre leurs propres États qui apparaissent impuissants face à ces vagues migratoires.
Philippe Manière.
Non, je crois que Brice le dit très bien. Ce qui génère cette réflexion et cette espèce d'amertume des peuples autour de la souveraineté, c'est le sentiment de l'impuissance. Il est, à mon avis, très exagéré au sens où on n'a jamais été aussi puissant qu'on le disait du temps où il n'y avait pas toutes ces constructions qu'on vient d'évoquer rapidement. Et il reste, heureusement, un champ pour la souveraineté. Mais il n'empêche que ce qui est perçu, c'est effectivement qu'il y a toutes sortes... La souveraineté de chaque État, dont le nôtre, doit fonctionner en concurrence, en coordination... avec d'autres souverainetés. Et donc, si on part de l'idée que le peuple souverain ne doit pas admettre la moindre limite à son pouvoir, eh bien, on se trouve frustré.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois pour ces réflexions sur ce terme qu'on examine finalement assez peu. En tout cas, voilà, j'étais ravi de vous entendre en parler. Merci donc à tous les trois, Brice Couturier, Sylvain Bourmeau et Philippe Manière. Cette émission, comme toutes les autres, vous pouvez la réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez sur franceculture.fr à la page du Gramo. Vous pouvez également la télécharger, la commenter, ou sur le site ou sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Philippine Lebray, Louise Fuseau, Céline Auclair. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Bali Yaga. Vous entendez le bruit de la pochette de Brice Couturier qui, voilà, qui part en week-end très vite après l'émission. Allez, on se retrouve nous lundi pour poser la question suivante à 18h20. L'opinion publique est-elle devenue un juge à part entière? Nous verrons comment, dans un certain nombre d'affaires judiciaires, les médias sont pris à témoin, voire parfois peut-être instrumentalisés pour essayer d'orienter ces affaires dans un sens ou dans un autre.